Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Bonne reprise ce lundi matin après un week-end synonyme de grosse chaleur.
Ah,
on espère
oui.
que vous n'avez pas trop souffert.
Et un week-end synonyme d'élection, second tour des législatives avec à la clé un séisme politique. Emmanuel Macron n'obtient pas la majorité absolue, il en est même loin avec seulement 245 députés.
La majorité présidentielle qui est talonnée par la NUPES et qui obtient 137 sièges.
Et par la grosse surprise de la soirée, le Rassemblement National qui décuple ses résultats d'il y a 5 ans, 89 députés. RN, c'est tout simplement du jamais vu et cela promet de très vifs échanges en perspective dans l'hémicycle. C'est surtout un tournant dans notre vie politique. La France est-elle ce matin devenue ingouvernable?
Eh bien, on posera la question à votre invité à 6h10. Julien, c'est un revenant puisqu'il avait décrypté pour nous les résultats du premier tour. Il s'agit du politologue Mathieu Souquer, expert associé à la Fondation Jean Jaurès.
Nous sommes le lundi 20 juin, veille de l'été, et c'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés.
Oui, une journée dont le but est de sensibiliser le grand public aux conditions des millions de déplacés à travers la planète. D'après les chiffres des Nations Unies, la barre symbolique des 100 millions de réfugiés dans le monde a été dépassée au mois de mai.
Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards ou des vieilles dames contraints de fuir leur pays pour échapper à un conflit, à la persécution et à la violence.
Oui, quelle réponse apportent aujourd'hui la France et l'Union Européenne? Que faire pour faciliter l'accueil des personnes qui quittent leur foyer déraciné par la guerre et la pauvreté? On sera à 5h45 avec Céline Schmitt. Elle est la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Et puis juste après, une partie avancée à 6h10.
Oui, on fait l'appel. Michael Jackson, Tina Turner, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Et puis bien sûr, on l'entend, Lionel Richie qui fête ses 73 ans aujourd'hui. En 1985, il a participé à l'écriture de We Are the World, la partition de USA for Africa. À 5h50 donc.
Vous avez l'essentiel du programme. Soyez tous les bienvenus, chers amis. On commence avec la météo. Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Ça y est, c'en est fini de la canicule?
Alors presque. Presque. Attention Julien, parce qu'après le passage des orages ces dernières heures, c'est vrai qu'on respire beaucoup mieux, ça va mieux sur la moitié ouest du pays. Mais attention, il reste 31 départements en vigilance canicule entre l'Indre-et-Loire et la Drôme, en passant par l'Auvergne, en remontant jusqu'en Alsace. Donc vraiment une grande partie est du pays. Ces vigilances, elles vont évoluer. Je pense qu'on va en avoir beaucoup moins à partir de 6 heures. Mais aujourd'hui, c'est quand même dans l'est et dans le centre qui va faire le plus chaud. 36 degrés à Lyon, 33 à Saint-Etienne, 32 à Clermont-Ferrand, 31 à Marseille, 29 à Strasbourg. Ailleurs, ça va beaucoup mieux grâce aux orages. 27 à Rennes, 26 à Nantes, 23 degrés à Paris, 18 à Cherbourg. Dans le ciel, c'est assez perturbé. Au nord de la Loire, c'est très couvert entre la Bretagne et les Ardennes. Très gris le matin, ça va s'arranger cet après-midi. Entre la Gironde et la Moselle, on a des petites averses. C'est très ensoleillé sur le quart sud-est. Et puis cet après-midi, le soleil revient en force. On aura quelques nuages sur la bande atlantique, mais vraiment rien de très inquiétant.
Merci beaucoup Anissa Dadi et à tout à l'heure. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Soyez tous les bienvenus. Et la une ce matin, cette question, la France est-elle devenue un pays ingouvernable? Emmanuel Macron a perdu la majorité absolue à l'issue du second tour des législatives. Une claque qui l'oblige à trouver une stratégie pour pouvoir gouverner et éviter la paralysie. La coalition présidentielle prise en tenaille avec sur sa gauche la NUPES, 137 députés, et sur sa droite le Rassemblement National qui réalise une performance historique avec 89 sièges. Reportage à suivre à Hénin Beaumont, le fief de Marine Le Pen. Et puis dans le reste de l'actualité, une nouvelle explosion du nombre de cas de Covid, plus 743% en une semaine en France. Peut-on parler d'une nouvelle vague et jusqu'où ira-t-elle? Élément de réponse dans ce journal.
Europe 1, législative 2022, second tour. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5 heures vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. La gifle, c'est le mot à retenir ce matin. Emmanuel Macron perd sa majorité absolue à l'Assemblée à l'issue du second tour des législatives. Il lui fallait 289 députés. Il n'en obtient que 245. Paris réussit en revanche pour la NUPES avec 137 sièges. 89 pour le Rassemblement National, c'est historique. Alors avec de tels scores, aucun parti ne dispose ce matin de la majorité absolue. L'expression qui revient en boucle depuis hier, c'est France ingouvernable. Louis Dragnel, déjà, est-ce que c'est ce qu'il va se passer? Et si oui, comment va faire Emmanuel Macron?
Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est inédit depuis le passage au quinquennat, Emmanuel Macron ne pourra pas appliquer la politique pour laquelle il a été élu à la présidentielle. En fait, on va assister à un changement de logiciel total, où il n'est plus question de savoir si tel projet de réforme peut être voté en négociant bien, car tous les textes seront forcément différents, avec une ambition moins forte pour espérer des majorités de circonstances. Quelques lois votées avec le soutien de la droite, quelques autres avec celui de la gauche, donc avec un risque que ces partis ne jouent pas le jeu. C'est pour cette raison que plusieurs ténors de la nouvelle majorité appellent à tendre la main à la droite, 69 députés sans aucune certitude de réussite. De toute façon, comme le confie ce conseiller à l'Élysée, notre stratégie c'est de ne pas bouger, essayer d'avoir des majorités d'opportunité. Il faut que les Français mesurent les conséquences de leur vote, ça va être le chaos. Et puis ensuite, on nous suppliera de dissoudre l'Assemblée nationale pour sortir de cette ZAD. Emmanuel Macron se retrouve donc coincé à l'extérieur de sa majorité par le RN et les partis de la NUP, mais aussi à l'intérieur même de sa propre formation avec un Édouard Philippe, 26 députés, et François Bayrou, 46, qui ont désormais un potentiel pouvoir de nuisance considérable. Sans eux, rien ne peut être voté. Un proche d'Emmanuel Macron conclut « Il n'y a pas de mystère, ce quinquennat sera totalement ingouvernable. »
Merci Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Illustration de la difficulté qui attend l'exécutif. Il faudra faire preuve de beaucoup d'imagination, a admis Bruno Le Maire, le ministre de l'économie hier.
Un rendez-vous manqué donc pour plusieurs ténors de la majorité, dont trois ministres.
Et on connaît la règle en cas de défaite aux législatives, c'est la démission. Ce sera donc le cas d'Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, et Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer, toutes les trois battues. L'autre défaite dure à encaisser pour Emmanuel Macron, Thibault Hue, c'est celle de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale.
Oui, c'est un coup dur. D'abord parce que Richard Ferrand était donné favori malgré un premier tour difficile face à Mélanie Thomin, candidate de la NUP, élue finalement députée avec 50,8% des voix. Quatrième homme de l'État, président de l'Assemblée nationale, il est l'un des premiers fidèles d'Emmanuel Macron, le premier du Parti socialiste à le rallier. Alors le président de la République perd un capitaine, l'un de ceux dont il était le plus proche, qui osait aussi lui parler très franchement. Hier soir, c'est un homme abattu avec un sourire amer qui s'est présenté devant son QG de campagne pour s'avouer vaincu.
Les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont choisi d'élire député ma concurrente. Je veux évidemment adresser mes félicitations à celle qui l'a emporté ce soir et former pour elle, pour la France et pour notre territoire, des vœux de plein succès.
Devancé de seulement 804 voix, Richard Ferrand n'a pas su assez puiser dans les réserves de voix du Rassemblement National et des Républicains pour briguer un troisième mandat comme député dans son fief breton. L'espoir d'un soulagement ne laisse donc que le triste goût d'un naufrage. À Châteaulin, près de Brest, Thibault Hue, Europe 1.
Et en conséquence, on se frotte les mains ce matin dans les rangs de l'opposition. Paris réussit pour la NUPES, emmené par Jean-Luc Mélenchon.
On le disait un petit peu plus tôt dans ce journal, la NUPES réussit à obtenir 137 sièges. Joie du leader insoumis hier soir depuis le QG de l'Union de la Gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui se félicite de ce qu'il appelle la déroute du parti présidentiel.
C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois, de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire.
Jean-Luc Mélenchon depuis le QG de la NUPES hier soir.
L'autre grand vainqueur de ce second tour des législatives, c'est le Rassemblement National, passé de 8 députés en 2017 à 89 en 2002, c'est historique.
Et Marine Le Pen a fêté ses résultats depuis son fief d'Hénin-Beaumont dans la soirée où elle a été réélue sans problème, avec plus de 61% des voix. Elle entend bien profiter de cette vague RN qui déferle sur l'Assemblée. Le reportage de notre correspondant Lionel Gougelot.
Une explosion de joie teintée d'incrédulité tant la performance est historique. Embrassade et champagne, quelques larmes même dans l'assistance. Les sympathisants de Marine Le Pen lui font un triomphe quand l'ex-patronne du Rassemblement National lui rejoint. Bruno Bild, réélu dans la circonscription voisine.
On l'a beaucoup critiqué, on l'a beaucoup enterré des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est elle qui nous a conduit à ce résultat-là. C'est elle et personne d'autre.
Dans la région ou ailleurs en France, les annonces de victoire du Rassemblement national dans les circonscriptions tombent une à une au cours de la soirée. Autant de force pour contrer la politique d'Emmanuel Macron, selon Marine Le Pen.
Empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue est évidemment un très grand soulagement quand on connaît la politique toxique qu'il envisageait de mettre en œuvre et que nous allons pouvoir contribuer à bloquer.
Une nouvelle génération RN va donc débarquer à l'Assemblée nationale. De nouvelles têtes, oui, mais pas forcément novices, assure Caroline Parmentier, élue à Béthune.
Beaucoup travaillent avec Marine depuis longtemps. Beaucoup ont déjà des mandats politiques, notamment de conseillers régionaux. Et croyez-moi, on sera un groupe dont on entendra beaucoup parler.
Une chose est sûre, constate un élu, avec tous ses députés et les moyens financiers qui en découlent, le Rassemblement national entre aujourd'hui dans une autre dimension. Aïna Beaumont, Lionel Gougelot, Europe 1.
5h07 sur Europe 1, plus 743%. Ce n'est pas l'évolution d'un quelconque parti politique au lendemain de la législative, non. C'est l'explosion du nombre de cas de Covid en France.
Oui, ce sont les derniers chiffres de Santé publique France. Après plusieurs semaines d'augmentation du nombre de cas positifs, sans réel impact sur les hôpitaux, le nombre d'admissions commence à repartir à la hausse. Yasmina Katou, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment où s'arrêtera cette vague.
Oui, d'abord, il faut prendre en compte la couverture vaccinale. Certes, 75% des adultes en France ont reçu une dose de rappel, mais seulement un tiers des 60-79 ans sont vaccinés avec un second rappel. Or, ce sont eux les plus à risque de faire une forme grave. Deuxième élément, le sous-variant d'Omicron BA5 qui est plus contagieux que BA2. Pour autant, certains pourraient éviter une réinfection, explique Emmanuel Piednoir, infectiologue.
Comme BA5 dérive de BA2, on imagine que s'il y a une très grosse partie de la population qui a été récemment affectée par BA2, celle-ci sera partiellement protégée quand même contre BA5, sauf les patients immunodéprimés, les patients fragiles. Et donc ça atténuera l'intensité de l'épidémie, ça c'est certain.
Autre facteur qui pourrait limiter l'impact de cette vague, nous sommes en été et nous passons donc plus de temps à l'extérieur, ce qui évite la formation de clusters en lieu clos. Mais l'abandon des gestes barrières pourrait bien contrarier cet effet. En mai, selon une enquête, seulement un Français sur deux déclarait se laver les mains régulièrement.
Merci Yasmina Katou.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban et à tout à l'heure.
Il est 5h09 et ce sont les courses de Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Nantes et mon pari gagnant sera le 503 Yemaska. Il a la particularité d'alterner les courses de plat et celles d'obstacles, faisant preuve d'une louable régularité sans pour autant avoir réussi pour l'instant à remporter une seule victoire. Néanmoins, il pourrait bien dès cet après-midi combler cette lacune, car le profil de l'hippodrome de Nantes ne pourra que servir ses intérêts et comme je le sais, en très grande forme le matin à l'entraînement, il mérite ici un très large crédit. Notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Nantes, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 3, Yemaska.
Yemaska, le numéro 3, merci beaucoup Thierry Léger. Et à tout à l'heure, une demi-heure pour les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et c'est à présent le pressing du petit matin avec nous Martin Lange. Bonjour.
Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux qui bien évidemment sont toutes consacrées ce matin aux résultats de ce second tour des législatives et un qualificatif revient en boucle. Ingouvernable, c'est le mot qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France avec pour illustration un Emmanuel Macron dépité. Photo du chef de l'État quasi identique choisie par le Figaro à l'épreuve d'une France ingouvernable, titre le quotidien qui note une hécatombe chez les ministres et les figures de la majorité, Christophe Castaner et Richard Ferrand notamment ayant été défaits. Le séisme conclut sobrement les échos avec là aussi un Emmanuel Macron à la mine abattue, le tout sur un fond noir. On a le sentiment que c'est un petit peu un enterrement ce matin, un enterrement de la Macronie dans la presse française. Omblin, quel article avez-vous sélectionné ?
Un article du Figaro qui nous invite ce matin sur le chantier d'une fouille près de Bordeaux à Villeneuve-d'Ornon, celle exceptionnelle d'un navire datant du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire du 7e siècle. Il était entièrement enseveli, a été découvert en 2013 lors d'un banal diagnostic. On en a parlé ici vendredi à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie. Avant tout travaux d'aménagement, des fouilles archéologiques sont obligatoires afin de s'assurer que les sous-sols ne renferment pas de trésors patrimoniaux. Et donc heureusement que l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, est intervenu. Donc depuis 2019, 6 ans après avoir été mis au jour, ce bateau en bois est étudié tant bien que mal, malgré les caprices de la météo. Il est d'ailleurs protégé contre des éboulements par des grands panneaux métalliques. Alors que sait-on jusqu'ici ? Bien que c'est un grand bateau de 5 mètres de large et 12 mètres de long, il devait en faire au moins 15 lorsqu'il était sur l'eau avec un mât imposant. La poupe a disparu, les scientifiques l'ont donc baptisé Pépin le Bref, comme le roi des Francs, connu pour sa petite taille. Il était court, hein, si vous voulez, donc ce navire
c'est pas par rapport à la durée
raccourci.
La durée de son règne.
Non, c'est pas le même siècle.
Son trajet. Ah, oui.
C'est pas le même siècle. Ce navire raccourci devait a priori transporter Pépin le Bref, c'est 10 ans plus tard, tôt. J'ai vérifié, mais c'est pas le même siècle, j'ai vérifié, du coup je l'ai pas noté. Alors ce navire raccourci devait a priori transporter des marchandises équipées d'une quille, il devait naviguer le long des côtes. Les scientifiques ont découvert des graines de plantes endémiques de Méditerranée et du Portugal. Alors faisait-il le voyage entre la France et la péninsule ibérique chargé de marchandises, où est-ce qu'il a été construit là-bas, où est-ce que ces graines étaient amenées par les matelots? C'est difficile à déterminer, voire impossible. Le Pépin le Bref a été retrouvé sous terre, au bord d'un ruisseau, il devait être amarré dans un petit port, puisque des sondages archéologiques, nous disent les scientifiques, ont révélé l'existence d'un mur antique tout près de l'épave. Alors, ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est comment il s'est retrouvé sous l'eau, puis petit à petit sous terre, pourquoi il a coulé. Et des analyses sont en cours pour savoir d'où vient le bois. Les fouilles vont se poursuivre tout l'été. Pour cela, il faut que le bois reste humide, figurez-vous, sinon il se dégrade. Donc le bateau est régulièrement arrosé. Évidemment, quand on aura fini totalement
ça.
De l'étudier, exactement, mais ça c'est pour l'étudier, pour pouvoir pratiquer des prélèvements dessus. Mais lorsque tout toute cette étape sera terminée, l'épave sera consolidée par, en revanche, lyophilisation, donc il sera totalement déshydraté pour être exposé. C'est à lire dans le Figaro.
Merci beaucoup, mais ça a l'air passionnant. J'aurais bien aimé être archéologue.
Oui, ouais. Comme plein d'enfants. Mais vous pourrez voir l'épave, elle sera exposée dans la région,
est encore un grand enfant.
Près de Bordeaux, à bientôt, on l'espère.
Oui. Martin, on vous écoute.
Oui, est-ce que vous connaissez les téléphones stupides?
Non, stupide.
Drôle de nom.
Téléphone qui sonne à 2h du matin, non?
Non, c'est le vôtre. Les dumbphones en anglais, hein, en opposition avec les smartphones, les téléphones intelligents, ceux que nous avons tous les trois, je crois, avec la petite pomme. Ces téléphones stupides, en fait, ils ne servent qu'à téléphoner.
C'est ceux qu'on a connus il y a 20 ans.
Ou à envoyer des SMS, exactement. Ils n'ont pas d'application, pas d'accès à Internet. Mais figurez-vous qu'en 2022, eh bien, ils ont la cote. En France, hein, 18% des personnes, hein, qui ont un téléphone ont un bon vieux GSM. Et dans le monde, le marché est en pleine explosion. En 2019, il s'est échangé 400 millions de dumbphones. Un an plus tard, c'était près du double.
Comment on explique le succès de ces téléphones basiques, Martin?
Déjà, comme pour le vinyle ou la cassette audio, il y a le côté rétro de ces objets. D'ailleurs, oui, la mode des dumbphones a commencé en 2017 quand Nokia a sorti une nouvelle version de son 3310, modèle mythique du début des années 2000.
Avec un écran couleur, c'est ça?
Exactement, le modèle avec Snake. Vous y avez joué, je suis sûr, Julien.
Ah oui.
Depuis, la nostalgie bat son plein. Les recherches internet pour ces modèles pré-iPhone et Android
d'ailleurs,
ont bondi.
Je fais un petit aparté. Je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas le Snake sur iOS ou Android.
Pourquoi cette licence n'a jamais été reprise, Julien.
Le problème, c'est que je viens de le dire à l'antenne.
Oui, il n'y a pas que l'effet de mode, hein, évidemment. Il y a aussi une vraie volonté de déconnexion de la part des utilisateurs. En moyenne, un être humain passe près de 4h48 exactement sur son téléphone chaque jour. C'est énorme, même trop pour certains, hein, qui préfèrent renouer avec le téléphone de leur adolescence sans Instagram ou Twitter. Il ne faut pas non plus oublier le prix de ces objets. Une vingtaine d'euros pour un vieux Nokia, par exemple, ce qui les rend très accessibles dans des pays en développement. D'ailleurs, hein, c'est principalement l'Afrique et l'Asie qui tirent le marché du GSM. Autre intérêt de ces téléphones, plus surprenant, la sécurité. En Israël, par exemple, depuis le scandale Pegasus, vous savez, ce logiciel espion qu'on a retrouvé dans les téléphones de journalistes ou d'hommes politiques, eh bien, tout le monde se rue sur les téléphones non connectés, plus 200% de ventes l'an dernier. Enfin, dernière raison qui pousse les utilisateurs à acheter des dumbphones, et pas des moindres, l'écologie. Ces frigos, comme on les appelle, sont très solides, leur batterie tiennent des journées entières, et surtout, s'ils sont encore là, après leur conception, eh bien c'est pour une bonne raison. Et à l'heure de la sobriété énergétique, eh bien c'est un vrai plus. Pourquoi les téléphones stupides sont de nouveau à la mode, c'est-à-dire sur le site de 20 minutes.
Merci beaucoup Martin. J'ai choisi pour ma part un article du JDD qui s'intéresse à une conséquence méconnue des épisodes caniculaires comme celui qu'on vient de vivre un peu partout en France. Figurez-vous que les fortes chaleurs rendent les missions de sauvetage en hélicoptère beaucoup, beaucoup plus périlleuses. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Éric Guichard, 53 ans, dont 20 passés aux manches de son hélico, est commandant du détachement aérien aérien de la gendarmerie nationale de Briançon, c'est dans les Hautes-Alpes. Et lundi dernier, il y a une semaine, il s'est envolé pour une mission de secours en montagne, comme il en a fait des milliers. Son objectif, récupérer deux alpinistes en difficulté, l'une blessée, retenue au bout de la corde par sa compagne de cordée à 3800 mètres d'altitude. Or, avec la chaleur, les conditions dites aérologiques étaient telles que j'ai dû m'y reprendre à 7 reprises pour rapprocher la paroi, raconte le pilote de cette unité d'élite, visiblement marqué par l'épisode. Je ne parvenais pas à maintenir l'hélicoptère en vol stationnaire, ajoute-t-il. Les vents me faisaient descendre brusquement ou me rabattaient vers la paroi. On a réussi, mais il me restait juste assez de kérosène à la goutte près pour rentrer à la base. C'était chaud, conclut le gendarme. Et c'est le mot chaud, celui qui explique pourquoi les hélicoptères deviennent si difficilement contrôlables près des montagnes. Les appareils sont confrontés en réalité à de puissantes turbulences qui sont le fruit d'un phénomène physique bien connu, la convection atmosphérique, quand l'air chaud proche du sol remonte vers le ciel, vu qu'il est plus léger que l'air froid qui lui des hauteurs qui lui redescend. Le contact entre ces deux flux crée donc des turbulences. Et bien là, les parois rocheuses rendues brûlantes par le soleil déclenchent des courants d'air chaud ascendants, parfois violents, qui s'inversent une fois en haut de la montagne, une fois au contact de l'air froid. Voilà pourquoi, en période de forte chaleur, les hélicoptères ont désormais beaucoup de mal à rester stables à proximité des parois rocheuses. Désormais, car les pilotes les plus expérimentés, les plus aguerris, ont vu très concrètement apparaître les effets du changement climatique, et cela à l'échelle d'une carrière, si bien que les missions de routine d'il y a 10 ou 15 ans sont désormais bien plus périlleuses à mesure que l'été approche. Alors bien sûr, la formation ultra exigeante des pilotes s'adapte à cette nouvelle donne, mais arriver à naviguer dans cet univers montagneux déjà très hostile devient extrêmement difficile, d'autant que les bourrasques, les turbulences sont le plus souvent impossibles à anticiper. Les hélicos, chahutés par le réchauffement, c'est-à-dire sur le JDD.fr.
Sur les conséquences inattendues du réchauffement climatique. Merci beaucoup, Julien. Merci, Matin. Je souhaite juste préciser que Pépin le Bref, c'est 8e siècle pour la culture générale. Et notre bateau, il date du 7e siècle. Donc Pépin le Bref est 100 ans plus tard. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Et ce revers historique pour Emmanuel Macron à l'issue du second tour des législatives. Il perd sa majorité absolue avec 245 députés. Paris réussit en revanche pour la NUPES qui obtient 137 sièges. 89 pour le Rassemblement National qui n'en possédait que 8 depuis 2017, inédit. Cette situation constitue un risque pour notre pays, a estimé Elisabeth Borne dans la soirée. Dès aujourd'hui, il va falloir construire une majorité d'action, a ajouté la Première Ministre. L'actualité ce matin, c'est aussi ce nouvel appel à la grève dans le secteur de l'énergie, aujourd'hui à l'appel de la CGT pour des hausses de salaire, alors que débutent aujourd'hui de nouvelles négociations.
Vous innovez, vous entreprenez, c'est votre chronique sur Europe 1 tous les matins, elle s'appelle Les Initiatives en France.
Bonjour Gilles Satatelli.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Et vous portez le projet Genesis, projet qui a consisté à développer un prototype de data center qui s'installe sur les toits. Est-ce que c'est ça ?
Oui. C'est une description tout à fait fidèle à l'invention et à notre démarche. Peut-être quelques mots pour essayer de fixer les idées.
Allez-y,
alors, dans le cadre de ce qu'on a connu en fin de semaine dernière avec ces fêtes de chaleur, je pense que la question environnementale s'impose à nous un peu comme une évidence. Il faut être conscient que le numérique est un contributeur qui est loin d'être négligeable. On considère en général que l'impact environnemental du numérique contribue pour 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, et en France, c'est quand même 10% de l'électricité. Tout ça augmente de 6% par an. Et ça mérite d'être souligné. Il y a un contexte réglementaire qui est émergent. Au mois de novembre dernier, il y a une loi Chaise qui est sortie, qui promeut le concept de numérique responsable et de sobriété énergétique.
C'est dans ce contexte-là. Parce que ce qui consomme énormément dans l'informatique, le numérique, ce sont les data centers, ces serveurs informatiques où l'on stocke les données. Or, il faut les refroidir, et c'est ça tout l'intérêt de votre création, de votre invention, c'est ça le projet de Genesis. Vous installez des data centers sur le toit, donc ils sont à l'air libre, ils n'ont pas besoin d'être refroidis artificiellement ?
Voilà, tout à fait, c'est une des caractéristiques, un des avantages de la technologie qu'on développe, le fait qu'on diminue les besoins en refroidissement, mais bon, ça va un peu plus loin que ça, en ce sens qu'on va vers une forme de décentralisation du concept, parce qu'un data center, donc, c'est un centre de données, donc dans centre, il y a le concept de centralisation. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dégaine son téléphone portable, qu'on consulte du contenu, qu'on fait appel à un des usages typiques d'un téléphone portable, et bien tout ça déclenche des transferts de données sur des très longues distances. Et donc ça, ça contribue de manière assez significative à l'empreinte carbone du numérique. Donc nous, on délocalise tout ça, on décentralise tout ça, on met ça sur des toits et effectivement, ça a tendance à moins consommer de par le fait qu'on est en extérieur, on refroidit moins. Et évidemment, comme on a installé en toiture, eh ben on fait appel à des énergies renouvelables. Donc voilà, c'est une démarche.
Alors justement,
dans ce sens-là.
Pour qu'on visualise bien cette installation, il y a des panneaux solaires qui abritent en dessous un boîtier dans lequel il y a le serveur informatique, mais aussi également une batterie, c'est bien ça ?
C'est exactement ça. Donc ça correspond exactement à ça. Alors on n'est pas les premiers à avoir eu l'idée que de réaliser des ordinateurs qui seraient alimentés par des énergies renouvelables, quitte à mettre une batterie à côté. Là où l'invention et la technologie sort son épingle du jeu, c'est dans l'approche qui consiste à aller vers une mutualisation distribuée, une forme d'auto-négociation des charges de travail. Donc on génère des flux d'énergie, on a des flux d'énergie et de données qui sont associés entre les unités, donc ces fameux panneaux solaires qui sont équipés de batteries et de calculateurs qui sont en toiture. Et donc tout ça, ça permet de diviser, alors sur nos estimations, nos mesures, par un facteur au moins 3, la consommation d'énergie carbonée. Donc ça présente évidemment un attrait particulier d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique également.
Et quand il fait pas beau, pour dire les choses crûment, quand les panneaux solaires ne fournissent pas suffisamment d'électricité pour alimenter les serveurs, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, on est tout de même connecté au réseau électrique. Toute l'intelligence du système est justement basée sur le concept de prévision et de planification et faire autant que faire se peut tout ce qui est possible pour, par exemple, déporter un calcul ou lever le pied, le faire à 110 km/h et pas à 130 pour faire en sorte qu'on fasse le même travail tout en consommant un peu moins d'énergie. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'une semaine pluvieuse au mois de décembre, eh bien, on sera obligé de faire appel au réseau électrique. Donc le système est tout de même connecté au réseau électrique. Et à contrario, par exemple, dans la période qu'on connaît aujourd'hui, quand il y a une forme de surproduction, où il y a une opulence énergétique, et puis peut-être des besoins qui sont moins marqués en termes de puissance de traitement, de puissance de calcul ou de service numérique, on a la capacité de réinjecter de l'énergie dans l'installation.
Et en période de canicule, comme on vient d'en sortir, est-ce que les fortes chaleurs ne sont pas un problème pour refroidir les serveurs ?
Eh bien, disons qu'il y a une solution de refroidissement qui est en place dans le système et qui s'adapte finalement aux conditions de température extérieure. Donc quand il se chauffe un peu trop, il y a une ventilation qui est un peu plus marquée. Quand ça ne chauffe pas, la nuit, en hiver, on n'a pas besoin ou très peu besoin que de faire appel au dispositif de ventilation. Et dans tous les cas, on reste largement bénéficiaire par rapport à une approche conventionnelle qui fait emploi, bien sûr, de climatisation, enfin de pompe à chaleur, etc., etc. C'est ce qu'on reconnaît dans les data centers conventionnels.
Ce projet a nécessité combien d'années de recherche ?
Alors, c'est un projet qui soufflera bientôt sa 10e bougie, qui a été démarré donc en 2013 par deux collègues et moi-même, donc Abdoulaye Gamatier et Michel Robert, qui sont respectivement directeurs de recherche CNRS et professeurs à l'Université de Montpellier. Donc, on a connu évidemment plusieurs étapes. On a commencé sur un coin de table avec des petits prototypes. Il y a un certain nombre de collègues qui ont contribué à cette démarche-là. Et l'étape majeure dans le développement du projet, j'aurais tendance à dire que c'est au moment où la région Occitanie nous a fait confiance, à travers deux projets financés, une démarche qui se rapproche plus d'une logique de pré-industrialisation, ce qui a permis de construire le prototype qui est actuellement disponible. Et aussi par le fait qu'on peut se permettre dans ce cadre-là, parce que les coûts d'exploitation sont beaucoup plus faibles que dans un data center conventionnel, que de réutiliser du matériel de seconde main. Et donc ça participe d'une démarche éco-responsable, en ce sens qu'on peut continuer à exploiter du matériel qui n'est plus en odeur de sainteté pour aller dans un data center conventionnel.
Merci infiniment Gilles Sassatelli de nous avoir présenté le projet Genesis qui pourrait donc fleurir sur les toits dans les années à venir. Excellente journée à vous.
Merci.
Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
Mais il y en aura d'autres de dates de concert, promis. 5h28, bon réveil avec Europe 1, matinale spéciale législative avec dans un instant le journal de Christophe Lamarre.
Et puis ce 20 juin marque aussi la journée mondiale des réfugiés.
Un coup de projecteur sur la situation des personnes contraintes de quitter leur maison, de fuir leur pays pour échapper à une zone de conflit, à la persécution ou à la pauvreté. Ils traversent les frontières ou se déplacent au sein de leur propre pays. Le nombre de personnes déplacées ne cesse de croître chaque année. Il a plus que doublé en 10 ans. Nous en parlons dans un quart d'heure avec Céline Schmitt. C'est la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Et avant 6h, on écoutera votre partition, Ombline, un peu plus matinale que l'habitude, et avec ceux qui ont chanté pour l'Éthiopie en 85. We are the world, we are the
Le collectif d'artistes USA for Africa dans la partition horaire avancée à 5h50.
La météo, Anissa Dadi, on respire un peu mieux, enfin.
Oui, ça va un petit peu mieux. C'est vrai que nous sommes en train doucement de tourner la page de cet épisode caniculaire, mais attention! Aujourd'hui, il reste des fortes chaleurs qui ne concernent plus que l'Est et le centre du pays. Donc pour l'instant, on a toujours 31 départements placés en vigilance orange canicule. Des vigilances qui devraient évoluer à 6h du matin. Je pense qu'on en aura un petit peu moins dans une demi-heure. Dans le ciel, alors il va une nouvelle fois faire très beau et très chaud sur le grand quart sud-est, hein, entre la Méditerranée et jusqu'à la vallée du Rhône. Ailleurs, on a un temps qui hésite entre nuages et éclaircies. C'est assez instable dans le ciel. Ce matin, au nord de la Loire, c'est très couvert. La journée commence avec des averses entre la Gironde et le Grand Est. Puis cet après-midi, ça va s'apaiser un peu. On aura un peu plus de soleil partout. Quelques nuages s'accrochent sur les côtes de la Manche. Mais c'est très agréable. Ce matin, il fait doux grâce aux nuages. 13 à Lille, 15 à Paris, 19 pour Ajaccio, 22 à Nice. Et alors cet après-midi, on aura une grande, grande différence entre l'ouest et l'est. 18 à Cherbourg, 36 à Lyon, 20 à Saint-Brieuc, 34 à Lons-le-Saunier. Vous l'avez compris, c'est dans l'Est qui fera le plus chaud, avec seulement 23 degrés sur Paris.
Merci beaucoup Anissa Dadi. Vous écoutez Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce lundi, la Macronie en échec à l'issue du second tour des législatives. Avec 245 sièges, le parti présidentiel n'a pas la majorité absolue et se retrouve coincé. La surprise de ce second tour vient du Rassemblement national. Percée historique pour la formation de Marine Le Pen, le RN obtient 89 sièges. À gauche, la NUPES perd son pari mais en gagne un autre. Jean-Luc Mélenchon n'ira pas à Matignon, mais avec 137 députés, l'Union de la gauche a les moyens de peser sur la nouvelle Assemblée. Et puis dans ce journal également, la guerre en Ukraine, l'armée russe continue sa progression dans le Donbass. Reportage de notre envoyé spécial à quelques kilomètres de la ligne de front.
Europe 1, législative 2022, second tour. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Le séisme, une France ingouvernable, la gifle. Ce sont quelques-uns des titres de la presse de ce lundi. La majorité présidentielle n'obtient pas la majorité et de loin à l'issue du second tour des législatives. 245 sièges seulement pour Ensemble contre 137 pour la NUPES de Jean-Luc Mélenchon. Forte poussée du Rassemblement national qui envoie 89 députés dans la future Assemblée. De quoi fragiliser le gouvernement d'Elisabeth Borne. Pour Emmanuel Macron, c'est une claque retentissante, Jacques Serret.
Oui, c'est le pire des scénarios pour Emmanuel Macron. Et personne dans son entourage ne l'avait imaginé. Dans les dernières heures de campagne vendredi, chaque préfecture avait fait remonter ses prévisions. Et selon nos informations, celle-ci indiquait qu'Ensemble obtiendrait une majorité absolue. 299 sièges, c'était la photographie annoncée au sommet de l'État. Les instituts de sondage prévoyaient que dans le pire des cas, le camp d'Emmanuel Macron obtiendrait un minimum de 265 sièges. Hier soir, Ensemble n'en a obtenu que 245. Une majorité très affaiblie et un président qui voit plusieurs de ses proches éliminés. Présent depuis les tout débuts de l'aventure En Marche, devenu président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand s'incline de 800 voix dans sa circonscription du Finistère, battu par une candidate de l'Alliance de gauche. Défaite surprise également pour un de ses plus fidèles lieutenants, jusqu'ici patron des députés En Marche à l'Assemblée, Christophe Castaner, arrivé lui aussi derrière la NUPES avec 48% des voix. Un monde qui s'effondre en Macronie. Hier soir, le chef de l'État a appelé ses deux compagnons de la première heure. Pour eux, comme pour lui, rien ne sera plus comme avant.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1, le calice jusqu'à la lie pour le camp présidentiel. Sur les 15 ministres qui se présentaient au suffrage des Français, 3 sont au tapis et non des moindres. La ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon à la Santé et Justine Bénin en charge des Outre-mer. Elles devront démissionner conformément à la règle tacite imposée par l'Élysée.
La majorité qui devra sans doute composer avec les Républicains en position d'arbitre.
61 élus et même 74 si l'on y agit. L'UDI et les députés étiquetés divers droite. LR sauve les meubles et se pose en faiseur de majorité à l'Assemblée. Pas question de faire quelque pacte que ce soit, prévient ce matin le secrétaire général des Républicains Aurélien Pradier. Nous restons dans l'opposition, ajoute le président Christian Jacob. Quelques voix dissonantes tout de même à l'image de Jean-François Copé, le maire de Meaux appelle au contraire à un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron.
La surprise de ce second tour, c'est la percée historique du Rassemblement National.
89, c'est le nombre de députés RN appelés à siéger dans la nouvelle Assemblée. L'abstention n'a pas porté préjudice à la formation de Marine Le Pen. Près de 54% des Français ont encore boudé les urnes hier. maire. L'ex-candidate à la présidentielle elle-même a largement assuré sa réélection dans le Pas-de-Calais avec 61% des voix. Comment expliquer une telle poussée au plan national ? L'analyse de Bruno Jambard, vice-président de l'Institut Opinionway.
On a le sentiment que le Rassemblement national a surperformé contre les candidats de la majorité présidentielle, mais aussi contre la gauche, et pas contre la droite. Ce qui veut dire que probablement les électeurs de gauche ont voté pour le Rassemblement national pour faire barrage aux candidats ensemble, que les électeurs de la majorité présidentielle se sont abstenus dans les duels entre la gauche et le Rassemblement national, et que ça a conduit à cette situation où, dans beaucoup de circonscriptions, le Rassemblement national qui était en tête peut obtenir des députés. C'est un résultat vraiment énorme compte tenu de leur isolement politique depuis des années dans un scrutin majoritaire.
Bruno Jambard, vice-président de l'Institut Opinionway, au micro de Louise Douillet.
Forte poussée donc du Rassemblement national est parti en partie et Paris en partie réussi pour la NUPES de Jean-Luc Mélenchon, je vais y arriver. Il n'ira pas à Matignon, mais l'Union de la gauche fait un retour en force à l'Assemblée.
Et Emmanuel Macron ne l'appellera pas pour faire de lui son Premier ministre. La gauche, regroupée sous la bannière NUPES, sort malgré tout considérablement renforcée avec 137 députés. Elle s'offre aussi quelques succès plus que symboliques, témoin celui de Rachel Keke, cette militante CGT et femme de chambre, a battu de quelques voix l'ancienne ministre Roxana Maracine à nous. Océane TR a assisté à l'annonce de sa victoire dans son QG de Chevilly-Larue. Reportage.
Il est un peu plus de 21h, un large sourire accroché aux lèvres, le regard humide.
Je sais pas, je suis ému, c'est une histoire historique, je suis contente.
Rachel Keke vient de l'apprendre, elle est la première femme de chambre à entrer à l'Assemblée nationale.
Je suis tous ces métiers invisibles. Je suis femme de chambre, femme de ménage, agent de sécurité, aide-soignante, aide à domicile. Ces métiers seront visibles par ma candidature. Maintenant, je vais me mettre au travail.
Leader du mouvement de grève des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, mère de famille, Rachel Keke, c'est un symbole, répète ses soutiens, qui eux aussi ont encore du mal à croire à la victoire.
C'est incroyable. Le combat qu'elle a mené avec ses collègues était important. C'est tout un symbole de l'avoir rentrée à l'Assemblée nationale pour porter une voix, celle du peuple.
C'est un honneur en fait, on ne peut que lui faire confiance à 100%.
C'est un autre combat qui débute, sourit la nouvelle députée, celui de porter la voix des 100 voix dans l'hémicycle.
Un reportage Océane Théard.
La NUPES et le Rassemblement National qui prennent en étau la majorité, c'est l'enseignement principal de ce second tour. Reste à savoir laquelle de ces deux formations prendra le leadership à l'Assemblée.
Et la question n'est pas neutre. Le premier groupe d'opposition peut obtenir la présidence des principales commissions, notamment celle des finances. La NUPES est en position de force avec 137 députés, mais l'attelage comprend plusieurs formations, là où le Rassemblement National avance en bloc constitué avec 89 députés, Arthur Delaborde.
Oui, malgré le très bon score de sa NUPES, Jean-Luc Mélenchon souffre de la poussée historique du Rassemblement national. L'Alliance de la gauche est aujourd'hui le premier bloc d'opposition à Emmanuel Macron avec 137 sièges de députés. Les partis qui en sont membres ont tout simplement plus que doublé leur force puisqu'ils n'additionnaient jusqu'ici qu'une soixantaine d'élus dans l'Assemblée sortante. Mais malgré cette performance électorale, ces quatre piliers, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste et Parti Communiste, ont prévu de siéger dans des groupes séparés. Or, pour le moment, la force principale de la NUPES, à savoir les Insoumis, compte seulement 72 députés. Ainsi, le parti de Jean-Luc Mélenchon n'est pas en mesure de s'emparer du titre de premier groupe d'opposition qui, en l'état actuel des choses, devrait revenir au Rassemblement national, fort de 89 sièges. Un titre qui n'est pas uniquement symbolique, puisqu'il permet d'exercer un certain nombre de contre-pouvoirs, à commencer par la présidence de la Commission des Finances, qui revient traditionnellement au groupe d'opposition le plus important.
Arthur de la Borde du service politique d'Europe 1.
Le reste de l'actualité, on en parle aussi également sur Europe 1. On part maintenant en Ukraine où l'armée russe poursuit son offensive dans le Donbass.
L'armée ukrainienne affirme avoir repoussé plusieurs attaques russes à Severodonetsk. Les combats font rage dans toute la région, notamment à Bakhmout. Cette petite ville est l'un des verrous qui interdit l'accès à Kramatorsk. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Nicolas Tonev.
Bakhmout, le fracas des départs d'artillerie, mais aussi le sifflement et l'explosion des arrivées. Les Russes se rapprochent. Sur la route de Lysychansk, un bruit sourd, une fumée noire, il faut laisser passer. Un premier T-72 arrache le bitume. C'est une colonne de chars, ils foncent vers le front. Les monstres s'éloignent. À l'arrière, un tout jeune homme en t-shirt et bob kaki sur la tête, le sous-lieutenant Mikita, 21 ans. diplômé de son école militaire l'an dernier.
Ce sont mes hommes. Je suis officier commandant en second de la compagnie des tanks. Près du village de Berestova, l'ennemi a cassé notre ligne de défense. Donc avec mes tanks, on part défendre cette ligne car on essaye de sauver la route entre Lysychansk, Severodonetsk et Bakhmut. Si l'ennemi prend cette route, ça sera la merde pour nous.
Ça l'est déjà en fait. Une ambulance militaire arrive, le conducteur déverse sa colère et sa détresse sur Mikita et moi.
Ne donnez aucune information. Nos gars meurent. Je transporte des blessés là.
Tu évacues ?
Oui, j'évacue.
Le jeune officier ne cache plus son désarroi.
Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de soldats blessés. C'est très difficile pour le moral. C'est vraiment comme une grosse merde.
Signe de l'importance de la bataille à venir, des chars arrivent encore depuis Kramatorsk. Entre Sévierske et Barmout, dans le Donbass, Nicolas Tonev, Europe 1.
Et puis la terre a tremblé à Taïwan, séisme de magnitude 6 cette nuit signalé dans l'est du pays. Aucun dégât ni victime à ce stade.
C'était le journal de Christophe Lamarre, journal très complet. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses à présent. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Nantes que va se courir ce Quintet à handicap qui réunira 14 chevaux âgés de 4 à 9 ans sur la distance de 2400 mètres. Et il y a pour moi deux concurrents qui se détachent. Les numéros 2, Sasakia, déjà gagnante sur cette piste le 2 mai sur le parcours qui nous intéresse, et 7, Just Light, vainqueur pour sa rentrée le 30 mai à Châteaubriant et qui sur sa lancée devrait pouvoir confirmer en terminant à coup sûr dans les trois premiers. Derrière ces deux priorités, je vous recommande les numéros 11, Picnic Royal, d'une régularité de métronome, n'ayant jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 7 dernières courses, 6, Scénariste, bon 2e en dernier lieu d'un quintet à Marseille-Borély, et 12, Angelo Dream, le doyen de la course, du haut de ses 9 ans, mais qui a toujours bien réussi sur cette piste nantaise. Enfin, les numéros 5, Chili Porte, 1, Stelvio, et 3, Style d'Argent, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 7, 11, 6, 12, 5, As et 3.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur Europe 1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger, vous restez avec nous. Dans un instant sur Europe 1, on parle de la journée mondiale des réfugiés.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Excellent réveil à vous les leftos à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h42, nous sommes le 20 juin et c'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Une journée pour sensibiliser le grand public sur la situation des personnes contraintes de fuir leur pays pour échapper à un conflit ou à la violence.
Bonjour Céline Schmitt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils sont demandeurs d'asile, apatrides, rapatriés, réfugiés, des personnes déplacées au sein même de leur pays, des femmes, des hommes, des enfants déracinés par la guerre ou les persécutions. D'après votre dernier rapport, le rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ces 10 dernières années, le nombre de personnes contraintes de fuir leur pays a augmenté, et ce, chaque année. On parle de combien de personnes ?
Oui, ce sont maintenant, à fin 2021, ce sont plus de 89,3 millions de personnes qui ont été déracinées, et vous l'avez dit, à cause de la guerre, à cause de la persécution, de violences, de violations de droits humains. C'est encore une augmentation par rapport à 2020. Le chiffre a augmenté de 8%, et donc ce sont 99 millions de personnes qui sont déracinés, qui ont dû fuir leur foyer à cause de violences, à cause de guerres, et ce chiffre a augmenté chaque année depuis la dernière décennie.
Fin 2021, vous le disiez, toujours selon ce rapport, nous n'avions pas connu un niveau aussi élevé du nombre de réfugiés depuis que les statistiques existent. Il y a 4 mois, la Russie a envahi l'Ukraine et une guerre sévit aux portes de l'Europe. En quelques semaines, combien de personnes ont fui les combats ?
Et oui, effectivement, encore cette année, ce nombre global de personnes déracinées a augmenté. On a maintenant dépassé la barre symbolique de 100 millions de personnes déracinées. C'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint. 100 millions de personnes, c'est effectivement une situation qui doit nous interpeller, ce chiffre énorme. Ce sont plus de 7 millions, il y a eu plus de 7 millions de traversées de frontières depuis l'Ukraine vers les pays voisins. Il y a maintenant plus de 3 millions de réfugiés d'Ukraine qui ont obtenu une protection temporaire en Europe. Et ce sont aussi plus de 7 millions de personnes qui sont déracinées à l'intérieur de leur pays. Donc là aussi, un nombre extrêmement grand, important de personnes qui ont fui, et en l'espace de quelques semaines. Donc c'est un déplacement qui a été extrêmement rapide, qui est sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, oui, on n'avait pas connu cette situation depuis des décennies, hein, concernant les réfugiés ukrainiens, précisément.
Effectivement, c'est une crise très rapide, avec un nombre de personnes qui a été déracinées en quelques semaines, qui est un nombre très, très important, avec des traversées de frontières de dizaines de milliers de personnes par jour. Mais on a vu aussi beaucoup de solidarité dans la réponse, qui était vraiment formidable. Et en publiant ce rapport, on veut rappeler justement aussi qu'il y a d'autres situations dans le monde qui ont besoin d'attention, qui sont parfois moins visibles, des crises qui sont oubliées, mais des personnes qui fuient, la même chose, qui fuient en raison de bombes, qui fuient en raison de violences, et qu'il ne faut pas oublier, qui ont besoin de soutien aussi pour continuer leur vie, pour reconstruire leur vie. Et ces situations oubliées sont très souvent aussi des situations pour lesquelles les acteurs humanitaires comme le HCR ont beaucoup plus de difficultés pour avoir des fonds, et donc des situations qui nous inquiètent et pour lesquelles on veut interpeller aussi.
Ça, c'est la terrible loi du mort-kilomètre, hein, qui dit que plus les crises ou les conflits sont éloignés de l'Occident, moins elles suscitent d'intérêt et d'empathie. Vous y êtes confrontés à cette situation, à cette terrible loi du mort-kilomètre, au HCR en particulier.
En fait, je pense que ce qu'il faut rappeler là aussi, justement, et j'en reviens, hein, aux chiffres à fin 2021, où il y avait déjà une augmentation depuis 2020, c'est que 75% des personnes réfugiées sont réfugiées dans les pays voisins, des pays qu'ils fuient, et sont réfugiées dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, donc des pays qui font aussi face à des défis, et les personnes déplacées font face à des défis multiples parfois. Donc, au-delà du déplacement lié par la violence ou les conflits, ils sont aussi, encore une fois, plus touchés par les aléas du changement climatique. Par exemple, au Sahel, les températures qui augmentent une fois et demie plus vite que la moyenne mondiale. Il faut, pour répondre à cette situation, il faut un partage de responsabilités au niveau mondial. Il faut des ressources pour apporter une aide humanitaire, mais au-delà de tout, il faut des solutions. Et les solutions, c'est la paix, en fait. Parce que ce que nous disent la majorité des réfugiés quand on leur demande « qu'est-ce que vous souhaitez ?», c'est « on veut la paix, on veut rentrer chez nous ». Et donc c'est cet appel qu'on lance aussi, un appel de mobilisation de la communauté internationale pour mettre fin à ces drames humains et investir pour construire, rétablir, faire la paix.
Dans les chiffres que vous avancez justement, parmi les personnes déplacées, certaines ont pu rentrer chez elles. Même si c'est trop peu encore, c'est encourageant. C'est un signal positif que vous envoyez aussi, que vous constatez.
Oui, pour montrer que les solutions sont possibles, même si elles sont limitées, même si le nombre de personnes qui ont été nouvellement déplacées dépasse le nombre de solutions, mais elles existent et il faut travailler à construire plus de solutions. Le retour volontaire des réfugiés, c'est-à-dire faire la paix pour permettre le retour. Et il y a une situation qu'on met en avant aujourd'hui, le 20 juin, c'est la situation du retour des réfugiés en Côte d'Ivoire, donc des personnes qui avaient fui lors de guerres civiles ou d'élections, de violences autour des élections, qui rentrent chez elles avec la perspective maintenant de reconstruire leur vie dans leur pays. Et donc ce qui montre que c'est possible et il faut travailler à trouver des solutions.
Cette journée mondiale des réfugiés est une journée pour changer le regard sur les exilés avec l'arrivée des réfugiés ukrainiens, les images de cette guerre, hein, comme on le disait, aux portes de l'Europe. Avez-vous le sentiment que les mentalités évoluent ?
C'est une journée, oui, pour changer le regard et aussi pour célébrer le courage, la résilience, les talents des réfugiés. Donc, c'est ce qu'on veut faire aussi ce 20 juin. Les réfugiés sont des acteurs aussi dans nos sociétés. Ils ont des talents et donc c'est aussi ça qu'on veut faire. La situation en Europe a permis justement de parler de ce que ça voulait dire d'être réfugié. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de devoir fuir son pays du jour au lendemain, très souvent avec pas grand-chose, fuir des bombes, et ça nous permet d'expliquer que c'est la même situation que vivent les réfugiés dans le monde entier, et ça nous permet de rappeler d'autres situations. Ça permet aussi de montrer que des solutions sont possibles. En quelques semaines, en Europe, Ce sont des millions de réfugiés d'Ukraine qui ont été accueillis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des défis. Bien sûr, il y a aussi des défis. Mais il y a en fait des politiques qui ont été mises en œuvre pour l'accueil. Et il y a des leçons à tirer de cela, certainement des bonnes pratiques. Et donc, effectivement, pour construire l'avenir et pour travailler à cette solidarité avec tous les réfugiés.
Merci beaucoup, Céline Schmitt, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et cette journée mondiale des réfugiés. C'est ce lundi, c'est aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bonne journée.
Merci à vous et bonne journée.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Alban Leprince.
Emmanuel Macron en pleine zone de turbulence à l'Assemblée. Le président a perdu la majorité absolue hier avec 245 députés. Après une percée de la NUPES qui obtient 137 sièges, performance historique du Rassemblement National, 89 députés. Tous feront leur entrée Palais Bourbon à 11h ce matin. La question qui se pose également, c'est celle de l'avenir d'Elisabeth Borne à la tête du gouvernement élu de justesse dans le Calvados. Elle devrait garder son poste de première ministre. Et puis on termine sur le prix de Diane Longines hier à Chantilly. Premier sacre de l'histoire de la course hippique pour une femme. C'est la jeune Britannique Holly Doyle qui est arrivée première.
Elle n'a pas été élue députée hier soir, mais elle reste la première force musicale d'Europe 1. Je veux parler de vous, Omblin, et de votre partition qui, à l'occasion des 73 ans aujourd'hui d'un certain Lionel Richie, est né le 20 juin 1949, revient sur la participation, sa participation à l'écriture d'un des titres solidaires les plus célèbres, We Are The World.
Cette chanson caritative, Julien, qui a pour objectif de collecter des fonds pour lutter contre la famine, est enregistrée dans la nuit du 28 au 29 janvier 1985. Elle réunit certains des artistes les plus importants de l'industrie musicale américaine du moment. L'événement est effectivement historique. There comes a time when we heed a certain call, when the
world must come together as one. À l'origine, l'idée de créer un super groupe, de rassembler les plus gros chanteurs du pays pour la bonne cause, vient de l'artiste et militant américain Harry Belafonte.
Une idée qu'il mûrissait depuis un moment avec l'intention de reverser les profits à un tout nouvel organisme appelé United Support of Artists for Africa, ou si vous préférez, USA for Africa. Harry Belafonte contacte le manager Ken Cragen, qui va devenir le principal chasseur de tête pour l'élaboration du projet. Il se trouve que parmi les artistes dont Ken Cragen s'occupe, il y a Lionel Richie.
Ce Ken Cragen s'adresse donc en premier à Lionel Richie, mais aussi à Kenny Rogers.
Les deux musiciens acceptent de participer au projet. Ils contactent leurs amis chanteurs Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ray Charles et Tina Turner. We are a part of God's great big family. Ils imposent également la présence de Stevie Wonder et du producteur Quincy Jones, qui a la bonne idée d'appeler Michael Jackson.
Entre le King of Pop et Lionel Richie, le rendez-vous est pris pour écrire la chanson.
Oui, dans la maison de famille des Jackson, dans le quartier d'Encino à Los Angeles, ils travaillent jour et nuit sur les paroles et la mélodie pour créer une chanson facile à retenir.
Et elle est achevée à peine quelques jours avant l'enregistrement.
Tous se retrouvent après la cérémonie des American Music Awards, présentée justement cette nuit-là par Lionel Richie. Une soirée de folie, se rappelle-t-il. Et vous l'avez entendu, c'est lui d'ailleurs qui chante en premier pour qu'il puisse en avoir terminé rapidement.
Helping hand. We are the world. Check your egos at the door, laissez vos égos à l'extérieur.
C'est ce qui est inscrit sur une pancarte accrochée à la porte principale des studios. Sur un tableau, plusieurs stars apposent leur signature à l'encre colorée. Certains portent le sweatshirt USA for Africa comme Al Jarreau et Diana Ross. Une seule star manque à l'appel. Il s'agit du chanteur Prince qui a manqué le rendez-vous. Il donne signe de vie au petit matin en appelant Quincy Jones. Il propose d'ajouter un solo de guitare, mais ce sera trop tard.
L'ambiance est plutôt bonne enfant.
Oui, Cyndi Lauper entasse ses bijoux dans un coin pour qu'on ne les entende pas carillonner et se met à improviser. Elle impressionne tout le monde.
Et un peu à part, oui, Nelson passe une grande partie de la nuit à boire avec Ray Charles.
Pendant une pause, lorsque le genius demande où sont les toilettes, Stevie Wonder lui répond « Je vais te montrer où c'est, Ray, suis-moi ». Ils se prennent alors par le bras, un aveugle qui en dirige un autre. Tout le monde est stupéfait.
On voit également Willie Nelson discuter avec Bob Dylan.
Il lui demande s'il joue au golf. Bob Dylan lui répond « Non, il paraît qu'il faut d'abord apprendre les règles. En veste de cuir, au micro, l'icône folk existe. Hésite et demande si c'est bon comme ça. »
Les passages en solo sont enregistrés entre 4 et 5 heures du matin, après tous les refrains.
Oui, le jour se lève et Bruce Springsteen est convoqué à nouveau après le passage de Bob Dylan. Le duo avec Stevie Wonder n'était pas au programme, il sera ajouté le lendemain. Un échange qui dure presque une minute sur les 7 que compte la chanson. À 8 heures du matin, un pouce en l'air, Lionel Richie salue la caméra qui a immortalisé cette nuit et tout le monde part se reposer. We Are The World sortira 5 semaines et demie plus tard. We Are The World par le collectif d'artistes USA for Africa. 75 millions de dollars ont été récoltés pour venir en aide aux populations touchées par la famine. Et la chanson continue d'engranger de l'argent aujourd'hui.
Merci beaucoup, Omblin. Dans un instant, le journal de Roman Hockey suivi des sports. Mais avant, c'est la météo. Anissa Dadi. Les vigilances évoluent.
Oui, Météo France va annoncer la nouvelle liste dans un instant, juste après 6 heures, dans quelques minutes. Il s'agit maintenant de 21 départements qui sont en vigilance orange, 11 départements en vigilance canicule entre l'Auvergne et le centre-est, hein, où il va faire chaud encore aujourd'hui, et 10 nouveaux départements, cette fois-ci placés en vigilance orange aux orages, car nous avons de nouveaux orages qui arrivent en fin de journée et qui pourraient être violents localement. Et là, ça va concerner le sud-ouest du pays. Donc aujourd'hui, on a une journée qui est assez instable, avec dans le quart sud-est, massif central, les Alpes, jusqu'en Méditerranée et même jusqu'en Alsace, une journée chaude et très ensoleillée. Ce matin, au nord de la Loire, on a un ciel très nuageux. De la Nouvelle-Aquitaine au nord-est, on a des averses qui s'enchaînent et qui vont très vite s'arrêter pour laisser place au soleil. Attention ce matin au brouillard aussi, si vous nous écoutez en voiture sur les routes d'Occitanie. Le ciel va s'éclaircir un peu partout cet après-midi, sauf sur les côtes de la Manche, entre la Bretagne et la Vendée. Là, on aura encore pas mal de nuages. 18 degrés à Cherbourg cet après-midi, 20 à Saint-Brieuc, 22 à Lille, 23 à Paris, 25 à Biarritz, 28 à Montpellier, 31 31 pour Marseille, 35 à Grenoble et jusqu'à 36 à Lyon.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Dadi. Vous écoutez Europe 1, soyez tous les bienvenus. Nous sommes le lundi 20 juin. Et il est bientôt 6h. Et à la une ce matin, une progression spectaculaire et inédite, celle du Rassemblement National, direction Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, où les militants ont fêté hier soir la victoire de Marine Le Pen. Ambiance bien moins survoltée du côté de la Macronie, qui se réveille ce matin sans majorité absolue et avec des ministres éliminés. Une claque pour la coalition présidentielle qui redoute une paralysie du quinquennat. Et puis nos encouragements aux élèves de terminale qui passent aujourd'hui le grand oral du bac, épreuve redoutée par bon nombre d'élèves français, une exception en Europe. On va vous expliquer pourquoi.
Europe 1, législative 2022, second tour. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et Roman Oquet pour la présentation du journal. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Une percée historique. Le Rassemblement National a obtenu 89 sièges hier soir contre 8 en 2017. Après une campagne discrète, le parti déjoue finalement les pronostics.
Le président du parti, Jordan Bardella, a salué un tsunami à l'image du score de Marine Le Pen dans sa circonscription du Pas-de-Calais.
62% des voix pour l'ancienne candidate à la présidentielle. Le correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot, a passé la soirée dans son fief d'Hénin-Beaumont où les militants exultent.
Une explosion de joie teintée d'incrédulité tant la performance est historique. Embrassades et champagne, quelques larmes même dans l'assistance. Les sympathisants de Marine Le Pen lui font un triomphe quand l'ex-patronne du Rassemblement National lui rejoint. Bruno Bild, réélu dans la circonscription voisine.
On l'a beaucoup critiqué, on l'a beaucoup enterré des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est elle qui nous a conduit à ce résultat-là. C'est elle et personne d'autre.
Dans la région ou ailleurs en France, les annonces de victoire du Rassemblement National dans les circonscriptions tombent une à une au cours de la soirée. Autant de force pour contrer la politique d'Emmanuel Macron, selon Marine Le Pen.
Empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue est évidemment un très grand soulagement quand on connaît la politique toxique qu'il envisageait de mettre en œuvre et que nous allons pouvoir contribuer à bloquer.
Une nouvelle génération RN va donc débarquer à l'Assemblée nationale. De nouvelles têtes, oui, mais pas forcément novices, assure Caroline Parmentier, élue à Béthune.
Beaucoup travaillent avec Marine depuis longtemps. Beaucoup ont déjà des mandats politiques, notamment de conseillers régionaux. Et croyez-moi, on sera un groupe dont on entendra beaucoup parler.
Une chose est sûre, constate un élu, avec tous ses députés et les moyens financiers qui en découlent, le Rassemblement national entre aujourd'hui dans une autre dimension. À Hénin-Beaumont, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et Marine Le Pen qui fera donc partie des 215 femmes élues hier soir. Un hémicycle tout de même moins féminin qu'en 2017, avec 37% de députés et ES sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Elle n'en fera pas partie. Elle, c'est la ministre Amélie de Montchalin, battue dans les zones.
Oui, c'est une rude déconvenue pour cette bonne élève de la Macronie. Victor Chabert, la règle en cas de défaite est claire. Amélie de Montchalin va devoir quitter le ministère de la Transition écologique, où elle aura donc fait un passage éclair.
Oui, Amélie de Montchalin devait incarner cette priorité du quinquennat qu'est la transition écologique. Emmanuel Macron l'avait décidé dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, notamment pour séduire les voix de la gauche. Mais hier, la ministre s'est inclinée aux élections législatives sur la 6e circonscription de l'Essonne face à Jérôme Guedj, candidat de la NUPES et ancien député de la circonscription.
Évidemment, ce soir, je tiens aussi à prendre acte de la victoire de Jérôme Guedj, à qui j'adresse mes félicitations républicaines. Comme le veut la tradition républicaine, je ne ferai pas partie du prochain gouvernement.
Amélie de Montchalin a eu le parcours parfait de l'étoile montante macroniste. Elle a fait ses premiers pas au gouvernement sous Édouard Philippe en 2019 comme secrétaire d'État aux affaires européennes, avant d'être promue ministre de la Transformation et de la Fonction publique, et très récemment à la Transition écologique, 5e dans l'ordre protocolaire. Également conseillère régionale d'Île-de-France, elle a annoncé qu'elle continuerait, je cite, à servir les Français.
Victor Chabert, Amélie de Montchalin éliminée hier soir comme deux autres ministres. Brigitte Bourguignon à la Santé et Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer.
Et qu'attombe aussi du côté des ténors de la majorité présidentielle. Parmi les éliminés, Richard Ferrand dans le Finistère et Christophe Castaner dans les Alpes de Haute-Provence.
Oui, deux exemples de la gifle réservée à la coalition Ensemble qui comptabilise 245 sièges, loin de la majorité absolue fixée à 289 sièges. Et c'est bien moins qu'espéré, a reconnu Gabriel Attal, ministre des Comptes public. Lou Dragnel, c'est une plongée dans l'inconnu qui attend désormais le président de la République.
Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est inédit depuis le passage au quinquennat, Emmanuel Macron ne pourra pas appliquer la politique pour laquelle il a été élu à la présidentielle. En fait, on va assister à un changement de logiciel total, où il n'est plus question de savoir si tel projet de réforme peut être voté en négociant bien, car tous les textes seront forcément différents, avec une ambition moins forte pour espérer des majorités de circonstances. Quelques lois votées avec le soutien de la droite, quelques autres avec celui de la gauche, donc avec un risque que ces partis ne jouent pas le jeu. C'est pour cette raison que plusieurs ténors de la nouvelle majorité appellent à tendre la main à la droite, 69 députés sans aucune certitude de réussite. De toute façon, comme le confie ce conseiller à l'Élysée, notre stratégie c'est de ne pas bouger, essayer d'avoir des majorités d'opportunité. Il faut que les Français mesurent les conséquences de leur vote. Ça va être le chaos. Et puis ensuite, on nous suppliera de dissoudre l'Assemblée nationale pour sortir de cette ZAD. Emmanuel Macron se retrouve donc coincé à l'extérieur de sa majorité par le RN et les partis de la NUP, mais aussi à l'intérieur même de sa propre formation avec un Édouard Philippe, 26 députés, et François Bayrou, 46, qui ont désormais un potentiel pouvoir de nuisance considérable. Sans eux, rien ne peut être voté. Un proche d'Emmanuel Macron conclut, il n'y a pas de mystère, ce quinquennat sera totalement ingouvernable.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Un quinquennat qui risque donc la paralysie, pris en étant entre le Rassemblement national et l'Alliance de la gauche.
Oui, la NUPES qui obtient 137 sièges, première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Une percée, certes, mais pas de cohabitation. Et pour le communiste Fabien Roussel, la NUPES n'a pas réussi, je cite, à dépasser un plafond de verre. Une victoire en demi-teinte que partagent aussi ses militants.
Moi, à titre personnel, j'appelle ça une victoire. Voilà, il y a vraiment une vraie mobilisation du peuple pour changer les choses et avoir un programme de rupture.
Le résultat de la NUPES est quand même très encourageant à mon sens, parce qu'on disait que le camp de la gauche était en très grande difficulté après la présidentielle. Aujourd'hui, on montre qu'on n'est pas mort.
On aurait pu espérer mieux pour la NUPES, mais on n'aurait pas dit ça il y a 3 mois. Donc on peut quand même célébrer ce soir, clairement.
Il y a du positif, puisqu'il y a plus de voix pour la NUPES. C'est catastrophique de voir le nombre de personnes qui votent Rassemblement National et LREM et à droite. Globalement.
Bien sûr, ce qui est un peu flippant, c'est le nombre de députés FN auxquels on s'attend. Et ça, c'est quelque chose de grave pour le pays, je pense.
On a laissé tellement, depuis très très longtemps, le couvercle sur les problèmes. Et pam, ça pète à la gueule.
Macron qui se donnait en pourfendeur de l'extrême droite, bah, il n'y arrive pas. Ils sont plus forts au bout de 5 ans de Macron qu'ils l'étaient avant, quoi.
Des témoignages de militants NUPES recueillis par Johan Tritz pour Europe 1.
Et puis un chiffre à retenir à propos de ce scrutin, celui de l'abstention. Près de 54% des électeurs ne se sont pas déplacés hier. Ce n'est pas un record pour des législatives, mais c'est plus qu'au premier tour.
Oui, c'est pas glorieux. Dans le reste de l'actualité, à 6h07 sur Europe 1, une journée cruciale pour les élèves de terminale.
Oui, avec la suite des épreuves du bac, grand oral à partir d'aujourd'hui pour les 500 000 lycéens. Un examen qui détermine tout de même 10% de la note finale. Alors, de quoi angoisser pour beaucoup d'élèves qui manquent d'ailleurs d'entraînement à l'oral. Un exercice répandu, en revanche, dans bien d'autres pays. Les explications de Louis Salé.
Dès les petites classes, le professeur parle et les élèves écrivent. Et pour les débats ou exposés, c'est plutôt le fond que la forme qui compte. Sylvie Plane est professeure en sciences du langage à l'université.
Ce qui est demandé au grand oral, c'est davantage des capacités de prestance, positionnement physique, qui a un côté un petit peu théâtral. Les élèves ne sont pas entraînés à cela.
Le grand oral nous vient d'Italie où depuis les années 60, il représente un tiers du bac. Une épreuve préparée soigneusement dans le secondaire par des oraux individuels très réguliers. Le coach vocal Jean Sommer déplore le retard des Français.
Les Italiens sont beaucoup plus extravertis physiquement que les Français, on le voit, puisqu'ils font des gestes, etc. Notre langue, on l'a valorisée en silence. Le fait de parler devant les autres, il y a quelque chose d'impudique. Dans les pays anglo-saxons, l'oral prime sur l'écrit. C'est non seulement se faire entendre, mais c'est également se vendre, se faire applaudir. C'est une prise de pouvoir.
Dès 5 ans, les petits Britanniques s'expriment tous les jours devant leur classe sur n'importe quel sujet. C'est le show Entel montre et raconte. En Suisse et au Québec, enfin, les élèves ont des heures de cours entièrement dédiées aux techniques de l'art oratoire.
Louis Salé du service Société d'Europe 1 et courage aux élèves de terminale, c'est bientôt terminé. 5 juillet, publication des résultats avant de partir en vacances.
Ah oui, évidemment, comme nous. Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal.
Il est 6h08 et on passe au journal des sports avec vous Martin Lange. On commence avec le triomphe de Fabio Quartararo en MotoGP.
Oui, le pilote niçois a remporté hier le Grand Prix d'Allemagne, sa 3e victoire de la saison. Et pour que la fête soit totale, hein, il a devancé son compatriote Johann Zarco. Avec cette 11e victoire en carrière, le champion du monde en titre prend le large au classement des pilotes. Il compte 34 points d'avance sur son plus proche poursuivant, l'Espagnol Espargaro. Mais lui veut avant tout gagner des courses. Écoutez.
Je pars pour la victoire et je pars pas pour gérer le nombre de points que j'ai au championnat. Le plus important, c'est de se battre au moins pour les victoires jusqu'au Japon, Thaïlande, et après on verra pour le championnat. Mais là, je pense qu'à une chose, c'est le plaisir de gagner des courses, il est fabuleux.
Fabio Quartararo chez nos confrères de Canal+. Il y avait aussi de la Formule 1 hier soir avec la nouvelle victoire de Max Verstappen. Le Néerlandais remporte le Grand Prix du Canada et prend lui aussi le large au classement des pilotes. À noter aussi la belle 6e place du Français Esteban Ocon.
Un mot de natation, Martin.
Oui, avec la belle moisson tricolore qui continue au championnat du monde à Budapest. Hier, Marie Vatel s'est offert l'argent sur 100 mètres papillon. Après sa belle 6e place au jeu il y a un an, la nordiste a enfin transformé l'essai.
Justement perdu, finissant 6e, 7e, 8e, et voilà, je me suis battue jusqu'au bout. Et au JO, j'étais partie très fort et j'ai complètement craqué vers la fin. Et comme j'ai dit, maintenant c'est une nouvelle stratégie qui se met en place, et c'est pour ça que je pensais pas que ça allait payer aussi vite.
Marie Vatel au micro de nos confrères de France 4. Aujourd'hui, c'est le champion du monde de 400 mètres 4 nages, Léon Marchand, qui replonge avec les séries du 200 mètres papillon.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
De l'escrime et deux nouvelles médailles pour les Bleus au championnat d'Europe d'Antalya. Yannick Borel décroche l'or à l'épée. Sarah Balzer s'offre le bronze au sabre. Du basket avec la suite de la finale du championnat de France. Match 3 crucial entre l'ASVEL et Monaco ce soir. Et puis on termine avec la sortie du deuxième épisode des Géants, le podcast de Jacques Vendroux, produit par Europe 1 Studio. Aujourd'hui, c'est Michel Denisot, ancien président du PSG, qui vous raconte son septennat à la tête du club de la capitale. Attention, ça déménage et c'est à écouter sur toutes les plateformes.
Et c'est formidable. Merci beaucoup, Martin. C'était le journal des sports de Martin Lange.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
L'essentiel de l'actualité de ce lundi, le journal permanent, Alban Le Prince.
2 mois après sa réélection, la sanction pour Emmanuel Macron qui perd la majorité absolue à l'Assemblée. 245 députés, Paris réussi également pour la NUPES qui en obtient 137. Et score historique pour le Rassemblement National avec 89 sièges. Tous les députés feront leur entrée à Palais Bourbon ce matin à 11h et débuteront une formation de 2 jours dispensée par 25 scientifiques expert des enjeux de climat et de biodiversité. L'actualité, c'est aussi ces vents violents qui ont frappé les côtes de la Manche et l'Atlantique ce week-end. 110 opérations de secours en mer ont été menées selon les préfectures maritimes de Brest et Cherbourg hier.
Restez avec nous dans un instant, on va se pencher sur les résultats de ce deuxième tour des législatives. Analyse à suivre du politologue Mathieu Souquier. À tout de suite.
Législative 2022, second tour.
L'événement politique est sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h13 sur Europe 1. Votre invité, Julien, est politologue et expert associé à la Fondation Jean Jaurès.
Bonjour Mathieu Souquer.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous sur Europe 1. Vous étiez déjà là il y a une semaine pour décrypter les résultats du premier tour. C'était la mi-temps. Là, le match est terminé. Le résultat est un séisme. Emmanuel Macron perd sa majorité absolue à l'Assemblée. Il n'a ce matin qu'une majorité très relative avec 245 députés au dernier décompte, pris en tenaille sur leur gauche par la NUPES, 137 sièges, et sur leur droite par un parti qu'on n'avait pas anticipé à un tel niveau, le RN, qui avec 89 députés décuple son score d'il y a 5 ans. On va évidemment revenir en détail sur tous ces résultats, mais avant, Mathieu Souquer, cette question, est-ce que la France est devenue depuis hier soir ingouvernable ?
Alors, en tout cas, il y a un vrai flou. Ça, c'est sûr que les Français avaient plutôt dit oui à Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Alors, certains parce qu'il voulait dire non à Marine Le Pen, mais quand même à la présidentielle, c'est bien lui qui est sorti vainqueur. Et donc la France avait dit oui à Emmanuel Macron. Cette fois-ci, on a compris qu'elle ne voulait pas dire oui au macronisme, en tout cas pas au macronisme triomphant, et qu'elle dit plutôt non. Et donc il y a quand même une situation inédite qui tient à l'impasse institutionnelle, en réalité, dans laquelle on se trouve. On a réformé nos institutions il y a une vingtaine d'années, en tirant les enseignements en fait de ce qu'on avait vécu il y a une vingtaine d'années à l'issue de 3 périodes de cohabitation. Et nous avions considéré de façon relativement consensuelle que la cohabitation n'était pas un bon système. Du coup, nous sommes passés au quinquennat, nous avons revu le calendrier électoral et normalement les élections législatives avaient depuis vocation à donner une majorité nette au pouvoir exécutif.
Donc on assiste à un tournant de la 5e République ?
D'une certaine façon, en tout cas, on va voir quelle est l'ampleur de l'impasse dans laquelle nous sommes, mais d'une certaine façon, oui, les Français ont dit merde, pardonnez-moi l'expression, au système. C'est-à-dire que nous avons du coup l'Assemblée nationale la plus représentative que nous n'avons jamais eue, en particulier parce que l'extrême droite, pour la première fois, y est massivement représentée. Non pas totalement d'ailleurs à la hauteur, à l'échelle de son poids politique dans le pays, mais en tout cas, elle est beaucoup plus forte que d'habitude. Et donc, en ayant l'Assemblée nationale la plus représentative jamais obtenue, nous avons peut-être la plus ingouvernable jamais obtenue.
Donc l'Assemblée nationale va redevenir l'épicentre de la vie politique française, là où tout se discute, se négocie.
On peut même dire que d'une certaine façon, à travers ce vote, le Parlement se venge. Depuis longtemps, on faisait la critique d'un Parlement qui était un Parlement godillot, effectivement d'une chambre d'enregistrement. On l'a vu d'ailleurs avec Emmanuel Macron et la très grande verticalité, la très grande centralité de son pouvoir. Tout se passait à l'Élysée et rien ne se passait, ou presque, à l'Assemblée nationale. On va avoir 5 années. Si le pouvoir se structure comme ça pendant les 5 prochaines années, on va avoir 5 années où c'est au contraire le Parlement qui va faire la loi.
Alors, pour de vrai. Avec seulement 245 députés, Emmanuel Macron va avoir besoin de 44 voix supplémentaires à chaque vote, vu que la majorité absolue est à 289 députés. Est-ce qu'il peut faire l'économie d'une alliance avec les quelques socialistes qui restent ou une partie des Républicains ?
Alors, il va falloir qu'il choisisse. Alors, peut-être que le « en même temps » qu'il promeut depuis 5 ans pourrait lui permettre de viser les deux. Il va quand même falloir qu'il choisisse. Et effectivement, il n'a de toute façon pas le choix. Mais donc, la question n'est pas de savoir si Emmanuel Macron va le faire. La question est de savoir si des partenaires potentiels vont accepter, effectivement, ce marché qu'il peut être enclin et même contraint à leur proposer.
Il peut aussi choisir la stratégie de l'enquistement, ne rien faire, laisser pourrir la situation pour que dans quelques mois cela justifie une dissolution ?
Alors, peut-être qu'encore une fois, il y sera de toute façon contraint. On pourrait se retrouver dans une situation de blocage, d'inertie politique qui pourrait le conduire à ça. Ça, pour le coup, c'est la surprise du chef et c'est la surprise des prochaines semaines. Il est en tout cas évident que le scénario le plus logique serait de discuter et de faire, comme d'ailleurs Jean-François Copé et quelques autres l'ont proposé dès hier soir, un pacte de gouvernement avec les Républicains.
Ce qui a été refusé directement par le président du parti, Christian Jacob.
Oui,
et ce qui assure encore une fois, que son parti restera dans l'opposition quoi qu'il arrive.
Ce qui, encore une fois, traduirait une forme de godille politique qui pourrait, aux yeux des électeurs, paraître quand même bizarre. Je rappelle encore une fois que l'élection présidentielle s'est jouée à droite et même très à droite jusqu'au premier tour, que le deuxième tour s'est gagné à gauche, que fraîchement réélu, Emmanuel Macron du coup s'est désigné de nouvelles priorités politiques, la planification écologique, la santé, l'école. Effectivement plutôt des priorités qui parlent à la gauche, et il se retrouve à devoir passer un pacte avec les Républicains. On imagine mal, encore une fois, que ce pacte-là puisse mettre en œuvre la planification écologique, un plan pour l'école, un plan pour l'hôpital.
Est-ce qu'on peut d'ores et déjà affirmer ce matin, Mathieu Souquier, que les grandes réformes prévues pour ce quinquennat, je pense notamment à la réforme des retraites, que ces grandes réformes sont en sursis, voire mornées ?
Alors, en tout état de cause, les deux principales forces d'opposition qui sont désormais présentes à l'Assemblée nationale, d'abord le Rassemblement national. Énorme surprise. Enfin, rappelons quand même, parce que c'est le fait majeur de ce scrutin, que
c'est la grande
l'extrême
surprise, ouais.
droite fait une entrée en force au Parlement comme jamais ça n'a été possible. Sous la proportionnelle en 86, c'était une grosse trentaine de députés.
35, oui.
Exactement. C'est plus du double cette fois-ci. Donc Marine Le Pen a réussi encore une fois, là où son père, alors non pas avait échoué, avait posé de première base, mais elle fait bien mieux que son père, et à l'élection présidentielle et au Parlement. Donc les deux principales forces d'opposition...
Sans avoir réellement fait campagne, ça paraît complètement incroyable.
Absolument. Emmanuel Macron n'a pas fait campagne, probablement pour des raisons aussi tactiques. Oui. Il le paye. Marine Le Pen, probablement déboussolée par son score à la présidentielle, où elle avait fait un score remarquable, n'a pas fait campagne. Mais on a pu observer quand même au soir du premier tour, il y a une semaine, que c'était bien sa formation politique qui enregistrait les plus nets progrès.
Comment se fait-il qu'on n'ait pas vu arriver cette vague RN à l'Assemblée nationale ? Je rappelle que les prédictions des instituts de sondage disaient entre 20 à 40 députés maximum pour le RN.
Oui, absolument. Alors, on voit que la NUPES est dans sa fourchette basse. On annonçait entre 150 et 200 députés. On est à peine à 150. Et effectivement, il y a un jeu de vases communicants, c'est-à-dire que les Français n'ont pas voulu dire oui au macronisme. Ils ont voulu dire non au macronisme. Et une des principales forces d'opposition au macronisme, c'est bien La République en marche.
Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon clive davantage que Marine Le Pen, aujourd'hui en France ?
Alors, en tout état de cause, l'un et l'autre ont, dans les enquêtes d'opinion en matière de trait d'image, de vraies difficultés. On imaginait d'autant plus difficilement que Jean-Luc Mélenchon soit lui-même Premier ministre, parce qu'on voit qu'il suscite un rejet relativement vif dans l'opinion, et y compris parmi une partie nette de ceux qui l'ont
Donc
eu.
Donc c'est cette ambition affichée qui pourrait expliquer qu'il y a certaines voix se soient reportées davantage sur le RN ?
Alors, en tout cas, il y a un blocage potentiellement au plan institutionnel, mais qui tient aussi au fait que nous avons trois forces politiques qui dominent la vie politique française aujourd'hui et donc qui vont dominer la vie parlementaire pendant les cinq prochaines années, ensemble la France Insoumise et le Rassemblement National, qui suscitent dans le pays, chez ceux qui ne votent pas pour eux, un rejet très fort.
Est-ce que vous considérez, Mathieu Souquer, ce matin, que le premier groupe d'opposition, c'est le Rassemblement National ?
C'est incontestable. Et donc, devrait revenir au Rassemblement National, précisément, la fameuse présidence de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale, c'est la principale force d'opposition.
C'est la tradition.
Et encore une fois, enfin, c'était la finaliste, Marine Le Pen était la finaliste de l'élection présidentielle. Elle a terminé à un score inédit au deuxième tour pour l'extrême droite. Et n'oublions pas, puisqu'on enterrait la semaine dernière encore Éric Zemmour, n'oublions pas qu'elle a aussi bénéficié d'un report de voix de ceux qui avaient voté pour Éric Zemmour à l'élection présidentielle.
Pour qu'on comprenne bien votre raisonnement, vous dites que le RN est la première force d'opposition parce qu'en termes de nombre de députés, 89, c'est plus que le nombre de députés France Insoumise.
Donc la NUPES
est une coalition, donc vous ne la considérez pas comme un groupe homogène.
Le Rassemblement National sera le premier groupe au Parlement. Et encore une fois, enfin, rappelons-nous que Marine Le Pen a totalement consolidé l'ancrage de l'extrême droite dans ce pays. Mmh. Elle a fait un score inédit à l'élection présidentielle et en réalité, la dynamique demeure bien de son côté.
En quoi ce poste de la présidence de la Commission des Finances est si stratégique ?
Alors, encore une fois, nous aurons une dizaine de groupes parlementaires à l'Assemblée, et au-delà même de la présidence de cette commission, qui est symbolique mais qui permet derrière d'ordonner un certain nombre de travaux parlementaires, on voit bien que plusieurs groupes pourront ordonner des motions de défiance, pour être tentés de façon régulière de mettre la majorité gouvernementale en difficulté. Donc, la gestion de l'Assemblée, à partir du moment où, en plus, la Macronie y a perdu deux piliers de relais essentiels du pouvoir exécutif,
Richard Ferrand,
la personne, effectivement, du président de l'Assemblée nationale et du président du groupe parlementaire, M. Castaner. Donc, on voit bien que les piliers de la Macronie à l'Assemblée nationale, eux-mêmes, se sont fait balayer.
Pour en revenir au résultat d'hier soir, c'est un grand coup qu'a frappé Jean-Luc Mélenchon, même si vous nous avez dit à l'instant qu'on est dans la fourchette basse de ce qui était programmé pour la NUPES. Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette coalition de la gauche ?
Alors, honnêtement, c'est très difficile à savoir. On a beaucoup raconté pendant la campagne que cette coalition était très hétéroclite, qu'elle était de circonstance, qu'elle avait vocation à sauver un nombre de sièges minimal, mais qu'elle n'allait pas tenir dans la durée. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, du coup, Jean-Luc Mélenchon ne peut plus se prévaloir d'être le principal opposant à Emmanuel Macron, comme il a cherché à le faire croire, et même réussi à le faire croire, pendant toute la campagne des législatives. Les chiffres d'hier soir, c'est avant toute chose le grand retour de l'extrême droite dans le paysage politique. Et alors, ce qu'on a constaté, c'était qu'au cours du quinquennat précédent, le Rassemblement National n'avait jamais investi précisément le Parlement. Il disposait certes de peu de sièges, mais la France Insoumise n'avait elle-même que 17 députés, et la France Insoumise...
Ça va être un vrai test pour le RN, d'ailleurs.
Absolument. Hein. La France Insoumise avait fait, en fait, de sa présence à l'Assemblée Nationale, un levier de son opposition. Et il s'était donné dans le pays une audience qui n'était pas à l'échelle des 17 sièges dont il disposait à l'Assemblée Nationale. On va voir comment le Rassemblement National, pour la première fois, va investir précisément le pouvoir législatif.
Est-ce que le président de la République peut décemment, réellement laisser Elisabeth Borne à Matignon, sachant que la Première ministre a été élue de justesse hier soir face à un jeune insoumis de 22 ans?
Absolument. Alors on sait que le président de la République n'aime pas être contraint par les circonstances, qu'il veut toujours garder sa liberté de choix, et on le comprend, et sans doute sera-t-il tenté de vouloir conforter son propre choix en la personne de Madame Borne à Matignon. Mais en réalité, quand même, les voies de passage pour lui sont dans un rapprochement avec les Républicains. Et ce qui suppose quand même est de faire évoluer la ligne politique qu'il avait essayé de se définir après sa réélection et le dispositif politique dont il s'est doté. Alors peut-être peut-il conserver Elisabeth Borne à Matignon, mais sans doute devra-t-il de toute façon revoir l'attelage gouvernemental dans sa globalité.
Mais le poste de Premier ministre en tant que tel pourrait servir de monnaie d'échange ?
On peut tout à fait l'imaginer. Rien ne garantit que Madame Borne soit confortée durablement à Matignon.
Cette nouvelle donne impose aussi à Emmanuel Macron d'être très conciliant avec ses alliés du Modem et d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, puisque la moindre défection compterait double.
Absolument. On voit qu'on a un président de la République qui est aussitôt réélu et aussitôt affaibli parce qu'il a une double opposition nettement renforcée à l'Assemblée nationale et parce qu'il a mécaniquement sa propre majorité elle-même qui est plus réduite qu'attendue, c'est-à-dire bien plus réduite qu'il y a 5 ans, nettement plus réduite qu'il y a 5 ans.
Centaines de postes en moins. Oui.
Absolument, mais bien plus réduite qu'attendue et qui pourrait, compte tenu encore une fois de la situation politique qui est la nôtre, se révéler un peu plus frondeuse encore qu'elle ne l'a été pendant 5 ans.
Il est passé où l'Emmanuel Macron flamboyant d'il y a 5 ans ? Celui qui promettait de renverser la table et à qui rien ne résistait.
Il est incontestable que si on avait vu venir sa propre réélection, favorisée encore une fois par un contexte particulier, oui. Un contexte de crise internationale dont on a vu qu'elle lui faisait faire un bond de 20 points dans les sondages. Si donc on avait vu arriver sa réélection à l'Élysée, on n'avait pas vu en réalité l'équation politique qui était en train de se nouer. Avec une opposition de gauche qui se réunifiait et qui se réunifiant se renforçait et une extrême droite elle-même se maintenant à un niveau tout à fait inédit.
Merci infiniment Mathieu Souquière, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, d'avoir décrypté pour nous les résultats de ces élections législatives. 2022, la flambée populiste, c'est le titre de votre dernier livre coécrit avec Damien Fleurot, c'est chez Plon. Excellente journée à vous.
Vous restez avec nous dans un instant, votre matinale spéciale législative se poursuit avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin.
Il est 6h27. Bonne matinée à l'écoute d'Europe 1.
Et à demain à partir de 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.